Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons maintenant le texte directement de la Passion de notre Seigneur selon Saint Jean. Alors c'était un peu surpris de voir que, pour certains passages, au moins les commentaires des Pères de l'Église sont assez courts, tout simplement, parce que n'oubliez pas qu'il y a quatre passions, donc beaucoup des choses que saint Thomas d'Aquin, entre autres, explique en citant les pères à partir pour saint Jean, ont déjà été expliquées dans les passions, quand il commentait avec les pères de l'Église, les passions selon saint Matthieu, saint Luc et saint Marc. Et donc, il ne va pas répéter les mêmes choses. Alors, je vais vous reprendre simplement les passages qui sont propres aux commentaires de saint Jean. Soit d'après saint Thomas, soit d'après Cornelius à Lapide, soit d'après Thiriet. Donc nous en sommes maintenant au chapitre 18, dans le polycopier qui contient les commentaires des Pères de l'Église, pour les chapitres 16 à 21. Nous en sommes à la page 15, en haut de la page. Commençons par les versets 1 et 2 du chapitre 18 de saint Jean. Après avoir dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu, parce que Jésus y était souvent venu avec ses disciples. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a terminé de s'épancher auprès de ses apôtres, il a donné ses derniers conseils, il a vraiment ouvert son sacré cœur, Judas est parti pour le trahir. Maintenant, il va rentrer vraiment dans la passion et va aller à Gethsémanie. Gethsémanie, c'est le jardin des Oliviers, dans lequel il y avait un pressoir. Gethsémanie, c'est le jardin du pressoir en hébreu. Pressoir à olives, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion, va en quelque sorte écraser son humanité, comme le pressoir écrase les noyaux d'olive pour en tirer l'huile d'olive. De la même façon, le Sacré-Cœur écrasé par la Passion. Le Sacré-Cœur écrasé par la Passion va être embroyé, va pouvoir diffuser la grâce sanctifiante, la grâce sacramentelle à tous ceux qui vont venir au pied de la croix. Gethsémani, n'oubliez pas, c'est aussi le calvaire. Le Golgotha, et c'est aussi le mont Moria, tout ça c'est la même chose. Le mont Moria, c'était le mont sur lequel Abraham est venu, à la demande de Dieu, immoler son fils Isaac. Il devait immoler son fils Isaac, vous savez que l'ange est intervenu pour empêcher Abraham d'accomplir son geste, mais Isaac qui porte sur son dos le bois du sacrifice, représente évidemment notre Seigneur Jésus-Christ, qui va être livré pour les hommes. La différence avec notre Seigneur, c'est notre Seigneur, lui, va être immolé. Ce n'est pas le cas pour Isaac. Voyons un petit peu les commentaires des pères. Notre Seigneur traverse le torrent, parce que dans le chemin, c'est dans le passage de cette vie, il a bu de l'eau du torrent. Boire l'eau du torrent, chez les pères, c'est la passion qui commence. Il se rend donc dans un jardin pour expier le péché qui avait été commis dans un jardin, car le paradis signifie jardin de délices. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va supporter, payer pour les conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Adam et Ève ont désobéi dans un jardin, le jardin d'Éden. Notre Seigneur Jésus-Christ va commencer sa passion dans un jardin. Adam et Ève ont pris le fruit défendu sur le bois d'un arbre. De même, c'est sur le bois d'un arbre que notre Seigneur Jésus-Christ va être crucifié. Bon. Donc il va expier, lui qui est innocent, le péché commis par des gens qui sont coupables et qui ne veulent pas faire pénitence pour leur péché. C'est dans ce lien que... Et encore une faute d'orthographe là. C'est dans ce lieu que le loup couvert de la peau de brebis est supporté au milieu des troupeaux par un conseil profond du père de famille, apprit à dresser ses embûches au pasteur et à disperser pour un moment le troupeau. Est-ce que le démon savait que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu? Les pères de brebis ne sont pas d'accord entre eux. Vraisemblablement, ils ne le savaient pas. En tout cas, ils n'avaient pas compris, ils s'en doutaient. Mais sans en être certain, parce que s'il avait été certain que notre Seigneur Jésus-Christ eût été Dieu, il n'aurait jamais cherché à le faire crucifier par les Juifs, parce qu'il se serait douté que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ symbolisait la perte de son pouvoir, du pouvoir du démon dans le monde. Donc vraisemblablement, le démon ne savait pas que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. Le torrent représente la violence de l'attaque contre le Christ pendant sa passion. Passer le torrent peut signifier différentes choses. Il traversait un torrent de souffrance, il boira du torrent sur le chemin. Et selon certains, Jésus fut même physiquement jeté dans le torrent après qu'il eut été livré par Judas à la foule qui était venue le chercher avec lui, avec Judas. Donc le torrent représente donc la passion, c'est-à-dire le torrent qui se précipite contre celui qui est au milieu du torrent pour essayer de le faire tomber de son piédestal, tomber de son rocher. Eh bien, c'est le symbole des péchés du monde qui se précipitent contre le sauveur du monde pour essayer de le détruire et l'empêcher de détruire le pouvoir du démon. On retrouve David ici, évidemment, il y a un sens figuratif derrière. On retrouve David fuyant son fils Absalom, traversant le torrent du Cédron comme le Christ, mais cette fois-ci non pas pour fuir les Juifs, mais au contraire pour les rencontrer. Le Christ est venu là pour expier les péchés. Non pas les siens, il n'y en a pas, puisqu'il est Immaculée Conception, il est Dieu, il n'a pas de péché. Mais ceux d'Adam et de sa postérité, même les plus monstrueux commis dans cette vallée, comme ceux des parents qui brûlaient leurs enfants vivants en l'honneur de Moloch. Aujourd'hui, on fait encore pire. On fait encore pire. Et ces 250 000 enfants qui sont dépecés vivants en France dans le sein de leur mère, coupés en morceaux dans le sein de leur mère, par l'infanticide, par l'avortement. Il voulait tourner le lieu de cette souffrance en un lieu de triomphe, car c'est du mont des Oliviers qui ressuscita triomphalement après sa résurrection. C'est en ce même lieu qu'il reviendra pour juger le monde, ainsi comme le juge suprême pour récompenser tous les hommes selon leur mérite. Toute la tradition des pères nous dit que, à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts, à la fin du monde, avec les apôtres, il reviendra juger le monde au lieu où il a été publiquement vilipendé et crucifié, c'est-à-dire dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire à Jérusalem. Donc c'est à Jérusalem que notre Seigneur Jésus-Christ va mourir, c'est à Jérusalem que notre Seigneur Jésus-Christ va ressusciter, et c'est à Jérusalem que notre Seigneur Jésus-Christ va revenir à la fin des temps pour juger les vivants et les morts. Symboliquement, observons que le Christ alla d'abord dans le désert, puis dans les champs de maïs, et enfin dans le jardin, pour nous enseigner à l'aide dans les champs de la prédication, et de là vers la passion et la croix. C'est-à-dire que les apôtres prêchent, c'est l'image des champs, donc le champ qui est semé par le moissonneur, récolté par le moissonneur, représente le prédicateur qui va moissonner dans le monde la parole divine et qui vient récolter dans le monde les fruits de cette parole divine. Et par la prédication, il prépare les gens à quitter le champ de la prédication pour se diriger vers le lieu de la croix, c'est-à-dire le Golgotha, Gethsémani, et vers la passion. Voyez, disent les pères, par quel chemin nous sommes reconduits au paradis. Ici, c'est saint Ambroise qui parle. Le Christ est d'abord dans le désert pour guider, instruire et entraîner les hommes. Il les oint avec l'huile spirituelle. Donc ça, c'est le symbole de Moïse qui guide le peuple à travers le désert. C'est le symbole de saint Jean-Baptiste dernier prophète de l'Ancien Testament, premier du Nouveau Testament, comme vous voulez, qui amène ceux qui le suivent, à commencer par Saint Jacques et Saint Jean, Saint Pierre et Saint André, qui va donc amener les premiers apôtres à notre Seigneur Jésus-Christ. Puis, quand il voit que l'âme est plus forte, le Christ la conduit à travers les champs et les arbres fruitiers, plaçant l'âme en terre cultivable pour obtenir les bonnes œuvres. Enfin, il place l'âme au paradis au moment de sa passion, traversant le torrent du Cédron. Donc, chacune de ces étapes correspond à une étape de la vie spirituelle. Le Christ va d'abord dans le désert pour guider, instruire et entraîner les hommes. Ça, c'est la vie purgative, la voie de purification. Puis, quand il voit que l'âme est plus forte, il la conduit à travers les champs et les arbres fruitiers, plaçant l'âme en terre cultivable pour obtenir de bonnes œuvres. Ça, c'est la voie illuminative. Recevoir les lumières du Saint-Esprit une fois que notre âme a été purifiée par la prière et la pénitence. Et enfin, il place l'âme au paradis au moment de sa passion en traversant le torrent du Cédron. Et là, c'est l'âme, c'est évidemment la troisième partie de la vie spirituelle, la troisième étape, la vie unitive ou la vie mystique. Notez que la vie mystique passe par la croix. Donc c'est pour ça que la vie mystique est précédée d'une aliénation totale de sa volonté propre. La vie mystique est donc précédée par la nuit des sens, puis par la nuit de l'esprit, avant de pouvoir accepter la croix, l'embrasser, monter sur la croix et être crucifié avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le catholique, c'est quelqu'un qui crucifie sa volonté propre avec notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix. Continuons avec les versets 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de Saint Jean chapitre 18. Judas, ayant donc pris la cohorte et les gardes fournis par les princes des prêtres et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, vint au-devant d'eux et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Or Judas, qui le trahissait, se tenait là avec eux. Lors donc que Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Et ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Notez que Judas, qui vient trahir son maître, est un prêtre et un évêque. Il vient d'être ordonné quelques heures auparavant, il vient d'être ordonné prêtre par notre Seigneur Jésus-Christ, il vient d'être consacré évêque par notre Seigneur Jésus-Christ, il vient de recevoir des mains mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ sa première communion. Sa première communion, son ordination sacerdotale, sa consécration épiscopale sont chez Judas, toutes les trois, sacrilèges. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est trahi par un prêtre. Les trahisons des prêtres sont beaucoup plus lourdes de conséquences que les trahisons des laïcs. La trahison d'un évêque est beaucoup plus lourde que la trahison d'un simple prêtre. La trahison personnelle d'un pape est beaucoup plus lourde encore. Un pape peut trahir notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas en tant que pape, attention. Un pape peut trahir notre Seigneur Jésus-Christ dans ses péchés privés. Un pape peut commettre en privé tous les péchés possibles et imaginables contre la foi, contre l'espérance, contre la charité, contre la foi, l'espérance, la charité, la pureté, la patience, etc. Il peut commettre des péchés mortels. Il doit se confesser régulièrement. Au Vatican, il y avait un poste avant, il existe sans doute toujours aujourd'hui, même s'il n'y a plus de pape au Vatican, un poste de confesseur du pape. Donc le pape devait se confesser. Donc un pape peut trahir notre Seigneur Jésus-Christ en tant que personne privée. Mais quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église, il ne peut plus trahir notre Seigneur Jésus-Christ à cause des paroles de notre Seigneur. Les forces du mal ne prévendront point contre mon Église. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et Dieu, par le privilège de l'infaillibilité pontificale, protège le pape qui parle comme pape sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église. Il faut tout de suite répondre à une objection qu'on entend très souvent. Les gens qui nous disent « Mais monsieur l'abbé, c'est la fraternité Saint-Bénédict qui dit ça. » Pour que le pape puisse être infaillible, il faut qu'il définisse quelque chose. Ce n'est pas dans le texte de Vatican I qui définit justement les conditions de l'infaillibilité pontificale. Le texte de Vatican I dit expressément que le pape peut être infaillible, donc parler ex cathedra, aussi dans son magistère ordinaire universel. Or, qui dit magistère ordinaire universel? À partir du moment où c'est un magistère ordinaire, ce n'est donc pas une définition. Donc le pape est infaillible et dans son magistère extraordinaire et aussi dans son magistère ordinaire. Donc rappelez-vous, parce que j'en parle un peu, je rappelle des choses que j'ai déjà expliquées en d'autres lieux. Le pape est infaillible dans son magistère pontifical en tant que chef de l'Église, que pape, qui parle seul, soit de façon ordinaire, soit de façon extraordinaire, de première fois, et troisième et quatrième fois dans lesquelles il peut être aussi infaillible, c'est dans son magistère universel, c'est-à-dire quand il est uni, quand tous les évêques sont unis à lui, et là de façon ordinaire et universelle, dans quatre cas d'infaillibilité pontificale. Mais là on voit très bien, avec l'exemple de Judas, Judas n'est pas pape, attention, Judas est évêque cependant, et bien il va trahir son Seigneur, quelques heures après l'ordination sacerdotale. Et ça laisse réfléchir, surtout aujourd'hui, attention, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là. Quand ils voient la trahison des clercs aujourd'hui, qui font absolument du n'importe quoi, ils se disent, mais ils disent souvent, monsieur l'abbé, il y a vraiment un problème. Regardez même tous ces prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui sont tous sunacum ou presque, et qui continuent à encenser Bergoglio. Il y a un problème dans l'autorité, il y a un problème dans la formation qu'ils ont reçue au séminaire. Regardez le premier séminaire, encore une fois. Le premier séminaire, c'est le séminaire dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a donné tous les cours aux apôtres. C'est lui qui a formé les premiers apôtres pour qu'ils deviennent prêtres, puis évêques. Et pourtant, bien qu'il ait donné une formation parfaite, tous vont trahir. Judas de façon définitive et les autres de façon temporaire. Donc il ne faut pas dire que la cause est la formation. Ce n'est pas une question de formation en soi. C'est une question malheureusement de travail du démon dans les âmes. Donc méditons sur cette verset 5, donc sur cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi. Et là se passe un miracle extraordinaire. Donc Judas est venu avec une foule nombreuse, dit un autre évangile. Une foule nombreuse, on ne sait pas, 200, 300 personnes peut-être. S'il y avait 10 personnes, ce n'est pas une foule nombreuse. Il est venu qu'une foule compacte, une foule nombreuse. Et notre Seigneur, qui a laissé ses apôtres qui se sont endormis à l'entrée du jardin des Oliviers, notre Seigneur arrive seul. Il vint au devant d'eux et leur demande : qui cherchez-vous ? Et ils vont répondre : Jésus de Nazareth, c'est moi. Et au moment où il prononce c'est moi, ego sum, deux mots. Ils reculèrent et tombèrent tous par terre. Un miracle incroyable. Ils sont tous paralysés. Une apparition privée parle de plusieurs minutes, pas 30 secondes. Ils sont tous paralysés. Donc les soldats romains qui étaient là, les soldats juifs qui étaient là, les membres des scribes, les pharisiens, les membres du Sanhédrin qui étaient là, Judas lui-même, tout le monde se retrouve paralysé. Notre Seigneur Jésus-Christ qui se tient debout à la porte du jardin, qui contemple ses créatures en colère contre lui, en révolte contre lui. Pourquoi ce miracle ? Il faut bien comprendre. Pour essayer d'éclairer Judas, pour essayer de délier l'intelligence de Judas, la volonté de Judas, pour rappeler à Judas que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Judas est paralysé devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur devait prier pour Judas. Judas, rappelle-toi qui je suis. Regarde le miracle que je fais pour te rappeler que je suis Dieu. Demande pardon. Comme Saint-Pierre va demander pardon, je te pardonnerai comme je pardonnerai à Saint-Pierre. Et puis, juste après, il y aura ce deuxième miracle qu'on verra juste après. Au verset 10, deuxième miracle que notre Seigneur Jésus-Christ va refaire pour essayer d'ouvrir le cœur de Judas. Saint-Pierre a coupé l'oreille droite du serviteur du grand prêtre qui s'appelait Malchus. Notre Seigneur Jésus-Christ va faire une chirurgie esthétique instantanée, va raccrocher, va recoller l'oreille miraculeusement à Malchus. Pourquoi ? Encore une fois, pour essayer d'ouvrir le cœur de Judas. Mais Judas est malheureusement dans une situation qu'on appelle... Si vous voulez, il est dans une situation de refus de la vérité connue comme telle. C'est un péché contre le Saint-Esprit. Il est dans une situation de désespoir le plus complet. Et le désespoir le plus complet rend impossible toute conversion tant qu'on reste dans cette situation-là. Et Judas ne va pas se convertir. En voyant un petit peu le commentaire des pères. Alors donc, Jésus leur dit, donc le texte d'abord de l'évangile. Alors donc Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous ? Et dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Donc il est au milieu d'eux, disent les pères, et il frappe leurs yeux de cécité. Et l'évangéliste fait bien voir que ce ne sont pas les ténèbres de la nuit qui les empêchent de reconnaître Jésus en prenant soin de nous dire qu'ils avaient avec eux des torches et des lanternes. Au défaut même des lumières, ils auraient dû le reconnaître à sa voix. Et si cette troupe ne connaissait pas Jésus, comment Judas, qui avait continuellement été avec lui, pouvait-il ne pas le reconnaître? Aussi l'évangéliste fait-il remarquer que Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Je pense qu'une faute de français, c'est plutôt à défaut même de lumière. Donc ici, les ténèbres extérieures, évidemment, sont le symbole de la cécité spirituelle, l'aveuglement de l'âme. L'âme qui ne voit plus le soleil. Comme un hibou, si vous voulez, qui est aveuglé par une lumière extraordinaire, un spot lumineux, le soleil qui brille en plein jour, il ne voit plus rien. Pourtant, il y a la lumière, il ne voit plus rien, parce que ses yeux ne peuvent pas supporter la lumière du soleil. Bien là, c'est pareil, cette cécité spirituelle entraîne un aveuglement d'esprit. On devient absolument insensible à toute forme de grâce, même de grâce actuelle. C'est ça qui est terrible. Rappelez-vous le petit mot qu'on a déjà étudié, qu'on a déjà vu ensemble au moment du Jeudi Saint, pendant la première messe, juste avant la première messe de notre Seigneur, ou après la première messe de notre Seigneur Jésus-Christ, après que notre Seigneur Jésus-Christ eut consacré son corps et son sang, qu'il lui donnait la communion à Judas, qu'il l'eût ordonné prêtre et consacré évêque, Judas va sortir pour aller livrer son maître. Et à ce petit mot dans l'évangile, il faisait lui. Cette nuit représente la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel de Judas. Or Jésus voulait opérer ce prodige pour leur montrer que sans sa permission, non seulement il ne pouvait pas se saisir de sa personne, mais qu'il ne pouvait le voir puisqu'il fut, quoi qu'il fût présent au milieu d'eux. Lors donc il leur eut dit « C'est moi », ils furent renversés et tombèrent par terre. Donc premier miracle, encore une fois pour essayer de convertir l'âme de Judas. C'est que Dieu était caché dans ce corps mortel. Et le jour éternel était tellement voilé par la nature humaine que les ténèbres qui voulaient le mettre à mort étaient obligés de le chercher avec des torches et des lanternes. L'aveuglement de Judas et aussi l'aveuglement de tous ceux qui sont là. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ, pendant ses 3 ans de vie publique, a multiplié les miracles. Il y avait certainement, parmi cette foule qui était là pour arrêter notre Seigneur, d'ailleurs Judas, il y avait certainement des gens qui avaient eu des membres de leur famille qui avaient été miraculés par notre Seigneur, peut-être des aveugles dans leur famille qui avaient été guéris, des sourds qui avaient retrouvé l'usage de l'ouïe, des boiteux qui avaient recouvré l'usage de leurs membres. Peut-être qu'il y avait même des gens qui avaient été directement miraculés par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, ils viennent le trahir. C'est exactement ce que je fais à chaque fois que, après une confession, après avoir promis à notre Seigneur Jésus-Christ de ne pas retomber, je retombe malheureusement parce que je suis faible, parce que j'ai hélas gardé une occasion prochaine volontaire de péché grave. Maintenant, Jésus-Christ, par son évangile, fait retentir en tout lieu cette parole, « C'est moi ». Et cependant, les Juifs attendent l'Antéchrist et se retournent ainsi en arrière pour tomber à la renverse parce qu'ils sacrifient les biens du ciel au désir des choses de la terre. Pour rester bien avec le monde, ils se sont mis à mal avec Dieu. Et là, il y a cette comparaison, cette remarque très juste des pères. Pourquoi les élus tombent-ils la face contre terre, tandis que les réprouvés tombent à la renverse? Ici, il fait allusion à ce qui s'est passé au Tabor. Ce père de l'Église rappelle qu'au Tabor, donc, il y a eu la transfiguration de notre Seigneur. Et quand Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean qui ont assisté à cette transfiguration où notre Seigneur Jésus-Christ a dévoilé une toute petite partie de sa divinité au sommet du Tabor, eh bien, en dévoilant toute petite partie de sa divinité, ça a été suffisant à la fois pour donner une joie extraordinaire aux apôtres. Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Construisons 3 tentes, montons 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. Il est bon pour nous d'être ici, de rester ici avec vous. Mais en même temps, ils sont complètement paniqués et ils tombent la face contre terre. Alors qu'ici, il est dit, non pas qu'ils tombent la face contre terre, mais les gens qui sont venus arrêter notre Seigneur Jésus-Christ, ils tombèrent par terre et tombèrent en arrière, précise les pères. Car tout homme qui tombe à la renverse tombe en aveugle. tandis que celui qui tombe le visage contre terre voit l'endroit où il tombe. Donc, les trois apôtres au sommet du Tabor qui tombent la face contre terre, ils tombent sur leurs mains. C'est un acte d'adoration. En même temps de crainte, mais de crainte respectueuse, de crainte adorable, de crainte adorante, excusez-moi. Tandis qu'au contraire, dans ce cas-là, au moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, les bandits qui sont venus arrêter notre Seigneur Jésus-Christ tombent en arrière. On ne voit rien quand on tombe en arrière, on ne voit pas ce qu'on fait. Par contre, quand on tombe en avant en adoration, on voit ce qu'on fait. C'est un acte d'humilité. Au contraire, tomber en arrière, dans l'aveuglement le plus complet, c'est un acte d'orgueil. C'est une conséquence d'un acte d'orgueil. Et les pères de l'Église précisent, comme les méchants tombent dans un milieu qui est pour eux invisible, on dit qu'ils tombent en arrière parce qu'ils ne peuvent voir ce qui les suit dans ce milieu où ils sont tombés. Les justes, au contraire, qui s'humilient d'eux-mêmes au milieu de ces choses visibles pour mériter de s'élever jusqu'aux invisibles, tombent la face contre terre parce que pénétrés de compunction et de crainte, ils voient leur propre humiliation. L'humilité fait tomber la face contre terre, on tombe en avant, en adoration devant notre Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil, au contraire, aveugle et fait tomber en arrière, sans qu'on puisse voir quoi que ce soit. J'aime beaucoup cette remarque des pères. C'est là où on voit comment les pères ont l'interprétation de l'Écriture sainte. Moi, je n'aurais jamais pensé avoir une différence entre les apôtres qui tombent la face contre terre au Tabor et les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ qui tombent en arrière, paralysés au moment de l'arrestation. Encore une fois, il faut méditer tout ça. Plaçons-nous, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas considérer la passion comme quelque chose simplement de passé. La passion, c'est quelque chose de présent. Il faut vraiment méditer sur la passion, parce que la passion est renouvelée à chaque fois que je commets un péché mortel. Chaque fois que je commets un péché mortel, je recrucifie notre Seigneur sur l'autel de mon âme. Nous avançons versets 9, 10 et 11 de Saint Jean, chapitre 18. Il dit cela afin que s'accomplisse cette parole qu'il avait dite, de ceux que vous m'avez donnés. Je n'en ai perdu aucun. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand-père et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remettez votre épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas le calice que mon père m'a donné ?» Malchus est un mot hébreu qui signifie « roi », d'où le nom d'église Melkite. Et Melkite, c'est un rite catholique, rite catholique. Melkite, c'est le rite royal. Si mes souvenirs sont exacts, les Melkites ont comme langue sacrée, non pas le latin, mais l'arabe. Et il y a un rite catholique Melkite. Surtout, je connais mal les rites orientaux, mais je pense surtout au Liban. Donc, Malchus signifie roi. Comme serviteur du grand prêtre, Malchus représente le peuple juif qui fut auparavant un peuple royal et libre, mais devint sujet des prêtres qui le chargèrent des traditions et des cérémonies de l'exploiter. Donc Malchus, qui est serviteur du grand prêtre, représente le peuple juif qui s'est lié au prince des ténèbres et représente aussi chacun d'entre nous qui nous lions au prince des ténèbres chaque fois que nous commettons une faute grave. Regardez aussi ces symboles magnifiques expliqués par les pères. Cet homme, Malchus, perdit son oreille droite. Alors que Saint-Pierre et les apôtres prêchaient l'évangile à cause de son incrédulité et de sa haine du Christ. Il devint donc sourd à l'évangile et aux choses nécessaires pour le salut jusqu'à ce que le Seigneur le convertisse et guérisse son oreille. On entend par les oreilles. Nous avons une âme et notre âme va entendre la parole de la prédication évangélique par ses oreilles. Si je coupe l'oreille de l'âme, l'âme ne peut plus entendre ou va entendre très mal puisqu'il faut les deux oreilles pour entendre correctement les sons. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ qui va soigner miraculeusement, recoller cette oreille qui a été coupée par Saint-Pierre, représente justement le salut qui arrive dans une âme qui accepte de nouveau d'écouter. Beaucoup de gens modernes sont sourds, mes bien chers frères. Ils sont sourds, ils sont aveugles, ils sont muets, ils sont paralysés et ils sont lépreux, tout à la fois. N'oubliez pas que chez les pères de l'Église, je vous l'ai souvent déjà expliqué, ces malformations représentent les conséquences du péché. Quand je suis sourd, je ne peux plus entendre les remords de conscience à l'intérieur de mon âme. Et je ne peux plus entendre les remontrances vertueuses qui me sont données par le confesseur au confessionnal. J'entends plus rien parce que je me suis bouché les oreilles pour être aveugle. Je suis sourd pour ne plus entendre les remontrances. Je suis paralysé parce que je n'arrive plus à me bouger pour aller me mettre à genoux aux pieds du représentant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis paralysé, je suis sourd, je suis aveugle et je suis muet parce que je suis plus capable d'accuser mes péchés. Donc attention, mes bien chers frères, avant d'aller se confesser, de bien comprendre que nous devons libérer nos sens spirituels, que je sois capable de parler pour avouer mes péchés, que je sois capable de faire battre mon cœur pour regretter mes péchés qu'une contrition de tous mes péchés, un ferme désir de changer de vie et d'éviter des occasions prochaines volontaires de péchés mortels. Que je sois vraiment libre dans mes muscles pour que je puisse m'agenouiller avec humilité devant le ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que je ne sois pas aveugle pour pouvoir comprendre et voir avec les yeux de mon âme les conséquences terribles du péché pour le pécheur qui refuse de se convertir. Et que j'ouvre les oreilles pour entendre les remarques qui me sont faites et entendre l'absolution. Allez en paix, le bon Dieu vous a pardonné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc prions pour que le Seigneur notre vienne et nous convertisse en guérissant l'oreille de nos âmes, les oreilles de notre âme, les yeux de notre âme, les muscles de notre âme, les membres de notre âme, les yeux de notre âme, etc. Malchus veut aussi dire qu'il doit régner. Que signifie donc l'oreille coupée ? Pour la défense du Seigneur et que le Seigneur guérit lui-même. Elle est la figure du sens de l'ouïe qui est renouvelé après que tout ce qui appartenait au vieil homme a été retranché, afin qu'il serve Dieu dans la nouveauté de l'esprit et non dans la vieillesse de la lettre. Donc cette oreille qui est coupée montre le fait que je me suis retranché des occasions prochaines volontaires de péché. C'est un autre sens expliqué par les pères. Je me suis coupé du péché et donc je peux à ce moment-là entendre les vérités évangéliques. Je peux voir notre Seigneur Jésus-Christ qui agit sur moi, etc. Page 17. Or, qui peut douter que celui qui a reçu cette grâce de Jésus-Christ doive un jour régner avec Jésus-Christ ? C'est un serviteur qui est l'objet de ce miracle. Et il est la figure de l'ancienne loi qui n'engendrait que des esclaves. Lorsqu'il a été guéri, il devint la figure de la liberté spirituelle. Donc il était serviteur, ce Malchus, serviteur du grand prêtre, donc esclave du démon. Et là, c'est la figure de celui qui est libéré de ses chaînes par notre Seigneur Jésus-Christ, qui meurt pour lui sur la croix. Jésus coupe ses chaînes et le rend libre pour qu'il puisse enfin adorer librement notre Seigneur Jésus-Christ. L'oreille droite coupée, autre explication de Théophylacte, l'oreille droite coupée au serviteur du prince des prêtres est le symbole de la surdité des juifs, surdité qui régnait surtout dans les princes des prêtres. Et la guérison de cette oreille signifie que l'intelligence sera rendue aux juifs dans les derniers temps lors de l'avènement d'Élie. N'oubliez pas qu'un des signes de la fin des temps sera la conversion au moins d'une partie du peuple juif. C'est pour ça qu'on... Moi, je ne vois pas du tout ce début de conversion d'une partie du peuple juif, donc on est, à mon avis, encore bien loin de la fin du monde, parce que justement, on ne voit pas ce dernier signe qui manque. Saint Paul explique bien qu'un reste des juifs sera sauvé. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux, mes bien chers frères, et que l'Église prie pour eux, pour la conversion du peuple juif, même au Vendredi Saint, pour que l'aveuglement de leur âme soit ôté. Voilà cette prière magnifique que l'on dit au Vendredi Saint, après avoir prié pour tous les membres de l'Église, après avoir prié pour le clergé, après avoir prié pour l'empereur chrétien quand il y en a, après avoir prié pour tous les membres de l'Église, on va prier aussi pour les Juifs. Le prêtre dit cette prière, prions aussi pour les Juifs par jure. C'est pas très bien traduit. Oremus et profideis judeis, perfidis judeis, pro perfidis judeis. Perfidis, dans ce sens-là, ça veut dire celui qui a détruit sa foi. Perfidei. Fides, c'est la foi. Perfides, celui qui a abandonné sa foi. Donc c'est le juif infidèle dans sa foi. Prions aussi pour que les juifs parjurent. Pour les Juifs par jure, afin que Dieu notre Seigneur ôte le voile de leur cœur et leur donne de connaître eux aussi Jésus-Christ notre Seigneur. Puis ensuite le prêtre dit, Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui n'écartez point de votre miséricorde même les Juifs par jure. Là encore une fois, c'est la traduction du latin judaicam perfidiam, la perfidie judaïque. Mais encore une fois, dans le sens, attention, on a trop tendance à traduire le mot perfidiam par le mot perfidie. C'est pas exactement ça. Le sens a changé en français. Là, c'est le sens du juif qui a abandonné sa foi pour laquelle il avait été fait enfant de Dieu. Cette foi qui devait l'amener au pied de la croix, au pied de la conversion. Donc, ô Dieu qui n'écartez point de votre miséricorde, même les juifs perfides ou à parjure, écoutez les prières que nous vous adressons pour ce peuple aveugle, aveuglé. Donnez-leur de connaître la lumière de votre vérité qui est le Christ, afin qu'ils soient arrachés à leurs ténèbres par le même Jésus-Christ notre Seigneur. N'oubliez pas, mes bien chers frères, je l'ai souvent déjà dit que tous les premiers chrétiens, les premiers catholiques sont tous des juifs convertis. Il y a eu des magnifiques conversions. Je pense par exemple aux frères Lehmann qui sont devenus prêtres, qui se sont convertis au 19e siècle. Tous ces juifs qui se sont convertis, qui sont devenus des catholiques fervents. La Sainte Vierge Marie était de race juive, de religion juive. Elle s'est convertie dans le sens qu'elle elle attendait le Christ et elle s'est précipitée à la rencontre du Christ et de quelle façon extraordinaire. Donc, prions pour ne pas être nous aussi coupables de cette surdité spirituelle qui nous empêche d'entendre les paroles de vérité. Versets 12, 13 et 14 du chapitre 18 de Saint Jean. La cohorte et le tribun et les satellites des Juifs prirent donc Jésus et le lièrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Donc Caïphe, Anne était l'ancien grand prêtre. Attention, c'est Anne, c'est un nom d'homme pour les Juifs. Donc il était le beau-père de Caïphe. Il avait été lui-même grand prêtre, mais en principe ils étaient grands prêtres pour à vie. Mais il y avait tellement de corruption entre eux qu'ils se revendaient la charge à prix d'or. Et donc, dans la pratique, ils changeaient tous les ans. En s'emparant de la sorte de sa personne sacrée, il s'éloigne beaucoup plus. Plus encore de lui. Et ils enchaînèrent celui à qui ils auraient bien plutôt demandé de briser leur propre chaîne. Et peut-être s'en trouvait-il parmi eux qui lui dirent plus tard, comme à leur libérateur, vous avez rompu mes liens. Le Christ aurait pu, s'il l'avait voulu, briser tous les liens des Juifs plus facilement que Samson avait brûlé les liens d'Alila. Mais il ne le fit pas pour expier le péché d'Adam qu'ils avaient commis avec les mains, les étendant vers le fruit défendu. Le Christ, second Adam, voulut être lié pour expier les péchés d'Adam et de sa postérité, lesquels sont la plupart du temps commis avec les mains. Il voulut également représenter Isaac, qui annonçait le Christ lors du sacrifice d'Abraham, lié avant d'être offert sur le mont du Calvaire. Le mont Moria, qui est le mont du Calvaire, j'ai déjà expliqué. Donc, ces liens, au verset 12, ils prirent Jésus, le lièrent, ces liens représentent les liens du péché. Notre Seigneur Jésus-Christ va à la passion à cause de nos péchés. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, aurait pu immédiatement briser ces liens, retrouver la liberté. Mais il accepte les conséquences du péché qu'il n'a pas commis. Lui qui est innocent va payer le prix des pécheurs que nous sommes, nous qui sommes coupables. Donc il faut encore une fois voir le symbole de tout ça pour chacun d'entre nous. Versets 15, 16 et 17 et 18 du chapitre 18. Cependant, Simon-Pierre suivait Jésus avec un autre disciple. Ce disciple était connu du grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la cour du grand prêtre. Mais Pierre se tenait dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui avait été connu du grand prêtre, sortit donc et parla à la portière et fit entrer Pierre. Cette servante qui gardait la porte dit à Pierre, « N'êtes-vous pas, vous aussi, des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les satellites se tenaient auprès du feu. Parce qu'il faisait froid, ils se chauffaient. Pierre était aussi avec eux et se chauffait. Là, on arrive à une partie douloureuse de la passion. L'apostasie de Saint-Pierre, du futur pape. Attention, il n'est pas encore pape. Mais c'est le chef des apôtres. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous donne une leçon terrible avec cette apostasie de Saint-Pierre. Heureusement, apostasie provisoire. Il y a eu l'apostasie de Judas, définitive, et l'apostasie provisoire de chacun des apôtres. Tous vont s'enfuir. Saint-Pierre, qui a été choisi pour être la pierre sur laquelle Dieu a voulu fonder son Église, Saint-Pierre va trahir notre Seigneur. Eh bien, c'est pour nous montrer que si Saint-Pierre est tombé, tous nous tomberions, nous ferions la même chose, peut-être même 10 fois pire. Si moi j'avais été avec les autres apôtres au soir du calvaire, au jardin de Gethsémani, quand je vois notre Seigneur Jésus-Christ qui est lié, qui est emmené au loin pour être crucifié, peut-être que je me serais sauvé encore plus vite que les autres. Tous s'enfuir, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là? Quand on explique ça aux enfants, les enfants nous disent, « Monsieur l'abbé, moi, si j'avais été là, je ne serais pas passé comme ça. » On doit expliquer aux enfants, attention à l'orgueil. Sans la grâce de Dieu, il n'y a pas un péché que l'autre a fait que je ne sois pas capable de faire. Rappelez-vous la belle remarque pendant la préparation au baptême de Clovis par Saint Rémy, avant son baptême en 496, baptême de la France catholique. Saint Rémy expliquait la passion à Clovis, et Clovis s'est levé d'un bond, a tapé le poing sur la table en disant « Que n'ai-je été là avec mes francs ?» Eh oui, et maintenons-nous dans l'humilité. C'est donc par un secret dessein que la Providence permit que Pierre tombât le premier, pour que la vue de sa propre chute lui inspira plus de douceur pour les pécheurs. Les religieux qui sont tombés, ici c'est Saint-Pierre, tous sont tombés, et tous on peut tomber, moi le premier, eh bien, le fait qu'un religieux tombe doit augmenter pour lui, dans son cœur, la reconnaissance qu'il doit avoir envers son divin maître qui lui a pardonné, après sa chute, mais en même temps augmenter en lui sa miséricorde à l'égard des autres pécheurs. Donc Pierre est tombé aussi pour qu'il puisse parler plus facilement de la miséricorde. Quand j'ai devant moi un prêtre qui a abandonné le sacerdoce, hélas, pendant un certain temps, et qui cherche à revenir, et qui revient avec la grâce du bon Dieu, si j'ai à lui donner l'absolution, je vais lui dire, mais maintenant vous serez mieux, plus facilement, vous pourrez plus facilement parler de la miséricorde aux pécheurs, parce que vous êtes passé par là vous-même. Les prêtres qui ne sont pas passés par le péché personnel ont peut-être plus de mal à comprendre la gravité du péché. Quand on est passé soi-même, on comprend plus facilement. En effet, Dieu permit que Pierre, qui était le maître et le docteur de l'univers, succombât et obtint son pardon pour donner au juge des consciences, c'est-à-dire le prêtre au confessionnal, la loi et la règle de miséricorde qu'il devait suivre à l'égard des pécheurs. C'est pour cela, je pense, note importante des pères, que Dieu n'a point confié aux anges la dignité du sacerdoce, parce qu'étant impeccables, ils auraient poursuivi sans miséricorde le péché dans ceux qui le commettent. Les anges étant confirmés en grâce ne peuvent pas comprendre ce qu'est le péché. Le prêtre, étant un pauvre pécheur lui-même, sait ce que c'est que le péché par expérience personnelle. Et donc, il s'est lui-même confessé plusieurs fois, le prêtre est obligé toutes les semaines de se mettre à genoux lui aussi devant un confrère pour dire « Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché », l'évêque aussi, le pape aussi. Et donc, les religieux savent ce que c'est que le péché et doivent donc exercer cette miséricorde à l'égard du pécheur repentant. Attention, va et ne pêche plus. Le pécheur qui ne veut pas se convertir, évidemment, ne peut pas recevoir le pardon de Dieu. Donc c'est un homme sujet à toutes les passions que Dieu établit au-dessus des autres hommes, afin que le souvenir de ses propres faiblesses lui inspire plus de douceur et de bonté pour ses frères. Déjà, Pierre avait laissé refroidir dans son âme le feu de la charité, il réchauffait la fièvre de sa faiblesse à l'amour de la vie présente comme au feu des persécuteurs. Donc c'est un autre symbole bien expliqué, Saint Pierre qui, au verset 18, qui est avec à l'intérieur de l'endroit où étaient tous les gardes, et il se chauffe avec eux au feu parce qu'il faisait froid. Eh bien, c'est le symbole de celui qui a accepté la froideur du monde et donc commence à se décourager parce qu'il est en train de perdre la foi. Pierre n'a pas perdu la foi, attention, mais il avait une foi faible là encore. Donc il réchauffait la fièvre de sa faiblesse à l'amour de la vie présente. C'est la vie présente qui a... Il a voulu chercher une chaleur humaine au lieu de chercher la chaleur divine. La chaleur divine fait fondre la glace de l'orgueil, de l'égoïsme. Au contraire, la chaleur humaine ne fait qu'exciter les passions. Nous avançons versets 19, 20 et 21 du chapitre 18. Cependant, le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Et Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Je vais fermer les portes à cause des tracteurs qui passent tous à ma côté d'une ferme, c'est parfois très bruyant. Jésus lui répond, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit de secret. Pourquoi m'interrogez-vous? Demandez à ceux qui m'ont entendu. Et ce que j'aurai dit, eux, ils savent ce que j'ai dit. Donc ici se présente, disent les pères, une question qu'il ne faut point passer sous silence. Notre Seigneur ne parlait pas ouvertement à ses disciples, mais il leur promettait que viendrait un jour et il leur parlerait sans aucun voile. Comment donc peut-il dire qu'il a parlé publiquement au monde? D'ailleurs, il parlait beaucoup plus clairement à ses disciples quand il s'éloignait avec eux de la foule, car c'est alors qu'il leur expliquait les paraboles qu'il proposait au peuple sans lui en découvrir le sens. « J'ai parlé publiquement au monde » ne signifie donc autre chose que « beaucoup m'ont entendu ». Tout le monde a pu entendre ma prédication. On peut dire encore que le Seigneur ne leur parlait pas ouvertement parce qu'ils ne le comprenaient pas. Ils étaient aveugles, ils étaient sourds. D'un autre côté, s'il enseignait ses disciples en particulier, ce n'était cependant pas en secret, car on ne parle pas en secret lorsqu'on enseigne devant tant de témoins. Surtout si l'intention de celui qui parle devant peu de personnes soit qu'elle fasse connaître à un plus grand nombre ce qu'il leur a enseigné. Donc notre Seigneur Jésus-Christ explique, parle en parabole à la foule, explique ses paraboles à ses disciples, à ses apôtres surtout, pour que les apôtres puissent après, à leur tour après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ pour le ciel à l'ascension, puissent expliquer ces paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ aux fidèles. Notre Seigneur se rappelle ici ces paroles du prophète « Je n'ai point parlé en secret ni dans quelque coin obscur de la terre », citation d'Isaïe. Donc il faut apprendre à se taire pour pouvoir écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, on voit très bien chez Saint-Pierre, quand Saint-Pierre, plein de zèle, va dire, même si tous vous trahissent, pas moi, il y a trop parlé. Et notre Seigneur Jésus-Christ va être obligé de lui donner une leçon terrible. Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras trahi trois fois. Et c'est ce qui va se passer. Versets 22, 23 et 24. Lorsqu'il lui dit cela, un des satellites qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que vous répondez au grand prêtre? Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, montrez ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappez-vous? Et Anne, donc l'ancien grand prêtre, l'envoya lié à Caïphe, le nouveau, prêtre, nouveau grand prêtre, le grand prêtre actuel. On nous demandera peut-être, disent les pères, pourquoi le sauveur n'a-t-il pas fait ce qu'il a commandé lui-même aux autres? Ne devait-il pas souffrir cet affront et tendre l'autre joue à celui qui le frappait? Nous dirons que notre Seigneur est allé plus loin, répondant avec douceur et en ne tendant pas seulement l'autre joue à celui qui le frappait, mais en abandonnant son corps tout entier pour être cloué sur la croix. Et voilà la réponse que donne les pères à cette objection. Il nous apprend ainsi que nous devons accomplir les préceptes de patience qu'il nous a donnés, moins par des actes extérieurs où l'ostentation peut avoir part, mais par les sentiments du cœur. Il peut arriver en effet qu'un homme présente l'autre joue avec la colère dans le cœur. Notre Seigneur a donc beaucoup mieux agi en répandant la vérité sans la moindre aigreur et en se montrant paisiblement disposé à supporter patiemment des outrages plus sanglants encore. Là, on voit notre Seigneur Jésus-Christ qui aurait pu envoyer une demi-douzaine de légions d'or, d'anges, exterminer tous ses ennemis. Il se tait. Notre Seigneur se tait. C'est là, peut-être là, le plus grand mystère de la passion. Jésus saotem tachebat. Jésus se taisait. Il va se taire devant Caïphe, il va se taire devant Anne, il va se taire devant Pilate, il va se taire devant Hérode. Passons à la page 19. Versets 25, 26 et 27. Or Simon-Pierre était là debout et se chauffait. On lui dit donc, n'êtes-vous pas, vous aussi, de ses disciples? Il le nia en disant, je n'en suis pas. Alors un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, c'était Malchus, lui dit, est-ce que je ne vous ai pas vu dans le jardin avec lui? Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Ça c'est une grande, grande leçon pour chacun d'entre nous. Si Pierre, Saint Pierre, a trahi trois fois notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que je ne suis pas capable de faire sans la grâce du bon Dieu? Dans quel engourdissement avait été plongé cet apôtre si plein d'ardeur lorsqu'on voulait s'emparer de Jésus? Le voilà devenu comme insensible. Et Dieu le permet pour vous apprendre combien est grande la faiblesse de l'homme lorsqu'il l'abandonne à lui-même. Dès que le bon Dieu m'abandonne, je tombe. Que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber, dit saint Paul. Donc les pères de l'Église ont cherché à savoir le symbole représenté par ce chant de coq et par ces chutes de Saint-Pierre. Allégoriquement, le premier reniement de Pierre, de Saint-Pierre, figure ceux qui, avant la passion du Sauveur, ont nié qu'il fût Dieu. Le second représente ceux qui, après sa résurrection, ont nié à la fois sa divinité et son humanité. On peut nier la personne du Christ, on peut nier son humanité, on peut nier sa divinité, on peut tout nier. De même, au niveau du chant du coq, le premier chant du coq figure la résurrection du chef, alors que le second représente la résurrection de tout le corps qui aura lieu à la fin du monde. La première servante, qui fut l'occasion du premier reniement de Pierre, représente la cupidité, mais la seconde, le plaisir des sens. Le serviteur, ou les serviteurs du grand prêtre, symbolisent les démons qui nous portent à renoncer à Jésus-Christ. Donc, ce coq qui chante trois fois, cet apôtre qui nie trois fois notre Seigneur Jésus-Christ, représente les chutes multiples dont nous sommes nous-mêmes coupables et qui vont être rattrapées, on verra ça pendant la Passion, par la triple chute de notre Seigneur pendant la Passion. Trois fois, il va tomber sous le poids de la croix pour rattraper les péchés des hommes qui sont symbolisés aussi par ces chutes, cette triple chute de Saint-Pierre, triple chute publique de Saint-Pierre. Donc, notre Seigneur va rattraper publiquement la triple chute publique de Saint-Pierre. En bas, la page 19, versets 28 à 32 du chapitre 18 de Saint-Jean. Ils conduisirent donc Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller de pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc à eux dehors et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne vous l'aurions pas livré. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Mais les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite lorsqu'il avait marqué de quelle mort il devait mourir. Donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de commentaires des pères qui n'aient pas déjà été utilisés pour les autres évangiles. J'ai trouvé ici deux remarques. Je vous les lis. Pilate était romain et les empereurs romains l'avaient établi gouverneur de la Judée. Ce fut donc pour accomplir cette prédiction de Jésus qu'il serait livré aux gentils. Qu'est-ce que ça veut dire livré aux gentils? Il y a les juifs et les gentils. Notre Seigneur Jésus-Christ va être condamné à mort par les juifs, mais il sera livré aux gentils. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gentils le mettraient à mort. Je répète, ce fut donc pour accomplir cette prédication de Jésus qu'il serait livré aux gentils, qu'il le mettrait à mort, que les juifs ne voulurent point le recevoir des mains de Pilate et qu'ils lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort ». Donc notre Seigneur Jésus-Christ a été condamné à mort, strictement parlant, par l'autorité politique romaine, à la demande des Juifs. C'est comme ça qu'il faut expliquer les choses. Les Juifs sont donc coupables de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Pilate aussi, attention, pas de la même façon. Les Juifs sont plus coupables parce que les Juifs avaient toutes les prophéties dans l'Ancien Testament. Et n'oubliez pas, mes bien chers frères, que nous aussi, nous sommes coupables. Et j'ai déjà expliqué, je sais que ça énerve certaines personnes quand j'explique comme ça, c'est pourtant la réalité. Qu'est-ce qui fait plus de mal à Dieu? Un juif qui commet un péché mortel ou un catholique qui commet un péché mortel? Qu'est-ce qui fait plus de mal au bon Dieu? Un juif qui commet un péché mortel, un catholique de base qui commet un péché mortel ou un prêtre qui commet un péché mortel? Qu'est-ce qui fait plus de mal au bon Dieu? Un prêtre qui commet un péché mortel ou un pape qui commet un péché mortel? Oui, il n'y a pas que les Juifs qui sont responsables de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi nous, mes bien chers frères. C'est la passion de l'Église parce que nous sommes membres militants de cette Église. Et nous aussi, nous sommes responsables. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les Juifs qui sont responsables. On entend souvent cette remarque qui m'énerve quand j'entends ça parce que c'est faux. C'est vrai d'un certain côté historiquement, mais c'est faux dans la pratique quand on entend dire « la passion, c'est les Juifs ». La passion, c'est le péché mortel des hommes. La passion, c'est provoqué par le péché mortel des hommes. Donc combien de fois est-ce que j'ai trahi notre Seigneur Jésus-Christ de la même façon? Donc quel aveuglement impie, en haut de la page 20, se préoccuper de ne pas être souillé en pénétrant chez un païen, Pilate, dans la demeure d'un autre, mais de ne pas s'inquiéter du crime commis chez eux. On se préoccupe beaucoup des péchés mortels des autres et on se préoccupe beaucoup moins de nos péchés mortels à nous. C'est l'hypocrisie du monde moderne, ça. Regardez ces gens modernes qui vont verser des larmes de crocodile parce qu'on cueille une fleur dans un parc national ou parce que les bébés phoques meurent et qui vont tranquillement accepter que 250 000 enfants soient coupés en morceaux dans le ventre de leur maman par l'infanticide de l'avortement. Vous voyez ? Alors on pleure pour les fleurs, mais on ne pleure pas pour les âmes des enfants qui non seulement vont être coupés en morceaux, mais avec une âme qui ne verra jamais Dieu et qui sera au limbe pour toute l'éternité. Et nous sommes responsables de ça. On avance avec les versets 33 à 37 de Saint Jean. Pilate entra donc de nouveau dans le prétoire et appela Jésus. Et lui dit, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dites-vous cela de vous-même ou d'autres l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Votre nation et les princes des prêtres vous ont livré à moi. Qu'avez-vous fait ?» Jésus leur répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne fusse pas livré aux Juifs, et mon royaume n'est point d'ici. » Pilate lui dit alors, « Vous êtes donc roi ?» Jésus répondit, « Vous le dites, je suis roi. Voilà pourquoi je suis né, et pourquoi je suis venu dans le monde, pour en témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Il y a dans ces passages, dans ces versets, des vérités très importantes. Notre Seigneur Jésus-Christ le déclare expressément, « Je suis roi. » Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et attention à cet objet con qu'on entend tout le temps de gens qui ne connaissent pas l'Écriture sainte. « Ah, mais notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » On va expliquer avec les pères que notre Seigneur n'a pas dit, « Mon royaume n'est pas dans ce monde. » Il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ça veut dire, l'autorité que j'ai comme roi ne vient pas du monde, ne vient pas du nombre, ne vient pas du peuple. L'autorité vient de mon Père qui m'a transmis cette autorité, puisque je suis son Fils. Ici sont les fondations scripturaires du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai déjà dit, je n'y reviens pas parce que j'en ai souvent déjà parlé, est roi par nature et par droit de conquête. Par nature parce qu'il est créateur, par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Et on le voit très bien, il est roi de la société. Il veut être roi de la société, roi des cœurs, roi des intelligences, roi des volontés, dit le pape Pie XI dans sa magnifique encyclique Quas Primas, quand il a établi en 1925 la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, la fête du Christ roi pour le dernier dimanche d'octobre. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi, attention. Et plus que jamais, il doit être roi aujourd'hui. Il n'est pas simplement roi dans la sacristie, devant le tabernacle et dans l'église, il est roi partout. C'est un règne social. Donc notre Seigneur Jésus-Christ et son église ont un droit de regard dans la société, mes bien chers frères, puisqu'il est roi social, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a une union intime qui doit exister entre l'église et l'État. L'église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Quand le corps et l'âme sont séparés, on a un cadavre devant nous. Quand le corps et l'âme sont séparés spirituellement, on a aussi un cadavre devant nous. Notre Seigneur Jésus-Christ a un droit de regard par son Église, un droit de regard sur l'Église. Il a un droit de regard, bien sûr, non seulement sur l'Église, pardon, mais il a un droit de regard sur ce qui se passe dans la société, parce qu'il est Dieu et que c'est lui qui a créé cette société. Ne pas oublier ça. Les gens nous disent, mais monsieur l'abbé, il ne faut pas mélanger l'Église et la politique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle bêtise de savoir si on peut accepter l'avortement ou non et laisser 250 000 enfants être assassinés par leurs parents. Dans le monde, c'est pas de la politique, ça. Bien sûr que c'est de la politique. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui va décider si on accepte ou non l'avortement dans un pays. C'est de la politique, ça. Et si je dis que l'Église et la politique ne doivent pas être unies, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'a rien à dire contre l'avortement, que l'Église doit se taire sur l'avortement, que l'Église doit se taire sur le divorce, que l'Église doit se taire sur le droit des unions civiles pour les catholiques, que l'Église doit se taire sur les unions entre invertis sexuels, etc. Bien sûr que l'Église a quelque chose à dire. Notre Seigneur a quelque chose à dire parce qu'il est roi de la société. Je vous conseille beaucoup, mes chers frères, ceux qui ont un peu de mal avec ça, relisez Quas Primas, l'encyclique magnifique du pape Pie XI. 1925. Vous pouvez aussi écouter sur le site, vous avez une conférence sur, où j'explique justement, d'abord, je résume en 4 pages, conférence très courte de 10-15 minutes, pour expliquer quoi Primas depuis 11, et en même temps une conférence beaucoup plus longue d'une heure et demie pour expliquer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons ce que disent les pères sur ce thème. Notre Seigneur ne dit pas « Mon royaume n'est pas dans ce monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Tout ce que dans l'homme a été créé de Dieu, il est vrai. Tout ce qui dans l'homme a été créé de Dieu, il est vrai, mais qui a été engendré de la race corrompue d'Adam et du monde. Mais tout ce qui a été ensuite régénéré en Jésus-Christ fait partie de son royaume et n'est plus du monde. Par le baptême, nous passons sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme homme, tout simplement, nous sommes déjà sous l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons été créés par lui. Qui a créé les musulmans? Mohammed? Qui a créé les bouddhistes? Bouddha? Qui a créé les protestants? Martin Luther? Qui a créé les modernistes? Bergoglio? Non. Tous ces gens-là ont été créés par leur Rédempteur, leur Créateur, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Dieu nous a arrachés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Autre phrase très importante des pères, de ce qu'il déclare que son royaume n'est pas d'ici, il ne s'ensuit nullement que le monde ne soit point gouverné par sa providence. Ces paroles signifient donc simplement que son royaume n'est soumis ni aux lois du temps, ni aux imperfections de notre humanité. Mon royaume n'est pas de ce monde, mon autorité ne vient pas du monde. Ce n'est pas la démocratie républicaine, laïque, maçonnique qui va donner l'autorité à notre Seigneur Jésus-Christ. L'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout ça parce qu'il est roi de la société comme créateur et comme rédempteur. Donc son royaume n'est soumis ni aux lois du temps, ni aux imperfections de notre humanité, ni à la révolution des hommes qui se révoltent dans leur intelligence, dans leur volonté, dans leur sens contre notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est donc Dieu lui-même. Qui est la première source de vie, la première essence et la plus haute sagesse. Il est cette vérité qui ne changera jamais, la loi des arts, l'art de l'architecte tout-puissant. Dieu est le créateur, il est le grand architecte de l'univers. Il est bien plus que ça, mais il est aussi le grand architecte de l'univers, c'est lui qui a fait l'univers. Cette vérité tenue par les chrétiens est incomparablement plus belle que les vérités du monde moderne, qu'Hélène de Grèce pour laquelle se battirent les héros contre la ville de Troie. Nos martyrs sont bien plus forts dans leur combat contre la Sodome de ce monde moderne. Le Christ est le premier martyr de la vérité parce qu'il est Dieu. Et là, Lactance pointe les 3 étapes de la vérité. Ça, c'est intéressant. Page 20, en bas de la page. D'abord, connaître quelles sont les fausses religions pour rejeter l'adoration impie des dieux faits de main d'homme. Donc, connaître quels sont les faux dieux. Il y a des millions de faux dieux et un seul vrai Dieu. Deuxième point, comprendre qu'il y a un seul Dieu suprême dont le pouvoir et la providence ont créé le monde avant de le gouverner. Et enfin, troisième point, reconnaître son ministre et son messager envoyé par les hommes. Par son enseignement, nous serons libérés de l'erreur dans laquelle nous étions liés pour adorer le vrai Dieu qui nous apprendra la justice. Donc, séparer le vrai Dieu des faux dieux, reconnaître que le Dieu est roi de nos sociétés par création et par rédemption. Et enfin, reconnaître son messager, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, issu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Terminons avec la page 21, les derniers versets du chapitre 18, versets 38 et 39. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau pour aller auprès des Juifs et il leur dit: Je ne trouve en lui aucune cause de damnation. Mais c'est la coutume que je vous délivre quelqu'un à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous délivre le roi des Juifs? Alors de nouveau, ils crièrent tous en disant: Pas celui-ci, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Quel dommage que notre Seigneur Jésus-Christ n'ait pas répondu à cette question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Nous aurions eu une réponse extraordinaire. La vérité, c'est quoi? On a la définition philosophique de saint Thomas d'Aquin, adequatio rei et inelectum. L'adéquation, l'égalité entre les choses extérieures et l'image de ces choses dans l'intelligence. Les choses extérieures, adéquatio rei et inelectum, et l'image de ces choses dans l'intelligence. L'intelligence va faire en quelque sorte une photo, va recevoir une photographie de ce qui se passe à l'extérieur par l'entremise des sens. On comprend les choses par abstraction. Ce n'est pas le moment de vous donner un cours de philosophie, mais c'est ça qu'il faut comprendre. On comprend les choses par abstraction. Avec les sens, on voit, on sent, on touche, on écoute, on entend, et on a une image de ce qui se passe à l'extérieur. Cette image va être transmise par les sens, par les nerfs sensitifs, va être transmise au cerveau. Et le cerveau va recevoir une image de ce qui se passe à l'extérieur et va se former intellectuellement une image de la réalité physique extérieure. Quand l'image qui est dans le cerveau correspond à la réalité extérieure, on est dans le vrai, sinon on est dans le faux. C'est pour ça qu'on peut être trompé parfois par ses sens. Saint Bède nous dit que cette coutume n'était pas prescrite par la loi. C'est une coutume simplement, il n'y a pas de loi derrière. Elle venait d'une ancienne tradition des Juifs qui, en souvenir de leur délivrance d'Égypte, délivraient chaque année un criminel à la fête de Pâques. Ils ont sacrifié le sauveur et demandé la grâce d'un brigand. Et en punition de cet attentat, le démon exerce impunément sur eux des brigandages. À chaque fois que je commets un péché mortel, je demande la libération d'un brigand qui va venir prendre le contrôle de mon âme. Je mets le bon Dieu dehors, je hurle, libérez Barabbas, et je nomme Barabbas chef de mon âme, chef de mon intelligence. Barabbas signifie le fils de leur maître, c'est-à-dire du diable, car c'est le diable qui fut le maître de ce voleur dans ses crimes, comme il fut celui des Juifs dans leur trahison. Qu'est-ce que la vérité? Le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Rappelez-vous ce qu'on a déjà vu. Je suis la voie, la vérité et la vie, au chapitre 14 de Saint Jean. Le Christ est le chemin, la vérité, la vie, le plus élevé de tous les biens. Dieu est unique alors que l'erreur est multiple. Un seul Dieu, des millions de faux dieux. Il est celui qui amène à la lumière les choses qui étaient enveloppées d'obscurité. La plus puissante de toutes les choses est la ferme appréhension de l'objet dans l'esprit. Nous comprenons les choses par abstraction, mes bien chers frères. Donc attention à utiliser correctement notre intelligence. Malheur à ceux qui refusent d'utiliser correctement leur intelligence. Donc nous allons arrêter là. Nous commencerons la prochaine fois, si Dieu veut, le chapitre 19. Donc, lentement, nous arrivons à la fin de ces commentaires des Pères de l'Église sur les quatre évangiles. Qui a 21 chapitres dans l'Évangile selon Saint Jean. Il reste donc à expliquer 3 chapitres, 19, 20 et 21, à peu près, je pense, 6 heures de cours. Donc terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.